Sébastien Cavalier, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment devient-on attaché culturel ?
Je pense qu'il n'y a pas de recette pour devenir attaché culturel. Il faut juste avoir un véritable intérêt pour les arts et la culture et pour les échanges internationaux et le travail en coopération avec des gens issus de cultures différentes. Mais après, quand on regarde le profil des différents attachés culturels dans ce qu'on appelle le réseau du ministère des Affaires étrangères, vous avez une grande diversité de personnes qui ont des parcours extrêmement multiples. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la richesse de ce réseau et tout l'intérêt de ce qu'on peut apporter.
Quel type de formation ?
Alors, pour ce qui me concerne, parce qu'il m'est difficile de parler pour tous mes collègues, mais j'ai fait l'Institut d'études politiques de Grenoble et ensuite un troisième cycle en économie.
Et donc, c'est un profil relativement habituel ou ?
Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que nous sommes plusieurs dans ce cas-là, probablement.
Alors, donc, vous êtes ici en Chine, vous parlez chinois ?
Oui, je parle chinois, ce qui est quand même assez nécessaire quand on travaille dans un pays comme la Chine où beaucoup d'interlocuteurs préfèrent parler leur langue.
Vous avez fait les langues zo ?
Pas du tout, j'ai appris le chinois sur le tas, je dirais. Donc j'ai une maîtrise du chinois oral, mais pas écrite malheureusement.
Quel est le rôle d'un attaché culturel ?
Le rôle d'un attaché culturel, c'est de promouvoir les échanges artistiques et culturels entre des artistes et des institutions françaises et des artistes et des institutions de son pays de résidence, donc pour ce qui me concerne, de la Chine.
Vous avez un intérêt culturel de prédilection, j'imagine ?
On a tous des intérêts différents. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine des musées et du patrimoine de par le passé. Je suis aussi très intéressé par la danse contemporaine.
Et vos futurs projets en Chine, vous avez envie de faire des choses personnellement en Chine ?
Quand on occupe ces fonctions, je crois qu'il faut d'abord être au service de ce qui existe. On vient à un moment où des choses ont déjà été faites et il ne faut pas que les projets soient uniquement dictés par des intérêts personnels, mais par ce qui nous semble être important et intéressant dans la relation que les deux pays entretiennent.
Certes. Alors, vos précédents postes ?
J'ai été en poste au Cambodge où j'ai commencé en fait comme coopérant du service national à l'époque où il fallait encore faire son service militaire d'une façon ou d'une autre. J'y suis ensuite resté pour le bureau de l'UNESCO de Phnom Penh où j'ai travaillé pendant plusieurs années sur les programmes de sauvegarde des monuments d'Angkor. Je suis ensuite retourné à Paris où j'ai continué à travailler pour l'UNESCO à la division du patrimoine culturel toujours sur les programmes de sauvegarde d'Angkor. Et parallèlement, j'assurais la direction d'un musée tout à fait original à Lyon, qui s'appelle le Musée Urbain Tony Garnier, qui est un musée en plein air et qui est en fait un musée qui a été créé dans le cadre de la réhabilitation d'un quartier d'habitation à bon marché qui avait été construit dans les années 30 par l'architecte Tony Garnier. Et puis je crois que quand on a travaillé à l'étranger, on a un peu le virus, on a envie de repartir à l'étranger. Et j'ai eu la possibilité ensuite de partir à Taïwan, travailler toujours dans le secteur culturel. Et donc c'est là, en fait, que j'ai, tout en travaillant, appris le chinois.
Alors, la Chine, vous la connaissez déjà ? Vous vous en rêviez quand vous étiez enfant ?
Quand j'étais enfant, non, j'avais absolument aucune idée qu'un jour j'irais en Chine.
C'était pas un pays qui vous faisait rêver ?
Quand j'étais enfant, j'ai pas ce souvenir-là. Le souvenir que j'ai, c'est quand j'étais étudiant, j'avais envie d'aller en Asie, parce que l'Asie, dans les années 90, c'était le continent, les années 80-90, c'est le continent où là, qui était en pleine explosion, croissance économique, etc., et qui était à la fois très fascinant, attirant, et à la fois qui faisait peur. Et je me disais, finalement, autant aller sur place et se faire une idée de ce qu'est ce continent, qui lui-même est très divers, parce que vous avez différentes zones d'air culturelles. Donc quand j'étais au Cambodge, j'étais dans l'ère d'influence indienne, et puis à Taïwan et en Chine, je suis dans l'ère d'influence chinoise, donc ça m'a permis de voir les deux grandes aires culturelles asiatiques.
Alors, vous m'avez dit que vous aviez vécu à Taïwan. Est-ce que la Chine continentale, c'est une découverte ou c'est une vieille histoire ?
Je suis déjà allé en Chine continentale lorsque j'étais à Taïwan, mais c'est quand même une découverte. J'ai pas eu l'occasion d'y passer, d'y faire des séjours extrêmement prolongés jusqu'à présent.
Alors là, maintenant, il va être vraiment prolongé. Quelles sont vos premières impressions à propos du Pékin post-Jeux olympiques ?
Alors, je suis arrivé au moment où les Jeux paralympiques allaient commencer. Donc, j'ai eu une vision du Pékin finalement très agréable, où la circulation était fluide. Donc ça, c'était bien. Le Pékin post-Jeux olympiques, difficile d'avoir un jugement très précis, puisque votre question sous-entendrait que je puisse comparer la situation avant et après. Or, je suis arrivé que le 2 septembre, donc la situation avant, je ne la connais pas suffisamment bien pour avoir un jugement qui me permette de mettre en exergue comme ça des différences très, très frappantes.
Vous ne connaissiez pas Pékin avant?
J'avais fait un séjour d'une semaine à Pékin, mais je ne pense pas que ce soit en une semaine qu'on comprenne une ville aussi grande et aussi peuplée.
Et alors maintenant, ça fait quelques semaines que vous y êtes, cette impression, qu'est-ce que ça vous inspire, cette ville?
C'est d'abord une ville finalement très agréable à vivre, ce qui n'est peut-être pas l'image qu'on s'en fait quand on voit ça de très très loin et qu'on n'y est pas venu et qu'on voit uniquement que Pékin a 20 millions d'habitants. Et c'est une ville qui est sous réserve qu'on arrive à organiser d'un point de vue logistique une vie agréable et pas être tout le temps pris dans les embouteillages. C'est une ville qui est très agréable, qui a beaucoup de ressources, beaucoup de richesses dans le domaine culturel. Il y a énormément de musées, de salles de concert, de salles de spectacle. Et puis c'est une ville qui bouge énormément. La situation évolue en temps réel. Si on prend uniquement l'exemple le plus connu qui est Dashenze, cette fameuse zone d'art contemporain, c'est vrai qu'on peut y aller tous les mois, il se passe toujours des choses nouvelles, et pour les gens qui ont plus de recul et qui ont suivi le développement de Dashenze au cours de ces 3 ou 4 dernières années, ça a été totalement transformé. Donc on sent une énergie et un dynamisme et un foisonnement de projets qu'on sent peut-être moins quand on vit en Europe.
Alors, quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez en ce moment ?
Alors, le dossier le plus emblématique, c'est le Festival Croisement, qui est en fait un festival qui a été créé en 2006 à la suite des années croisées France-Chine, qui a lieu tous les ans au mois d'avril-mai dans toute la Chine. Et l'année dernière, il y a eu des spectacles ou des événements croisements dans 18 villes de Chine, donc une centaine d'événements. Et comme son nom l'indique, la spécificité de ce festival est en fait d'essayer de programmer des événements qui sont le résultat d'un échange, d'une collaboration entre des artistes et des institutions chinoises et des artistes et des institutions françaises.
Alors, quels vont être les points forts de ce festival en 2009 ?
Alors, nous sommes en pleine préparation du festival, mais c'est vrai que si on reste sur la logique des croisements, on aura une reprise par le ballet du Sichuan, la compagnie de danse contemporaine, d'une chorégraphie de Eddy Malem, du Sacre du Printemps, qui sera un beau croisement. Nous avons un spectacle qui va s'appeler La Boîte, qui est un spectacle qui a été créé entre des marionnettistes français et des marionnettistes de Taipei, et qui est en fait un spectacle plutôt pour les enfants, parce que nous souhaitons essayer de toucher un public plus familial par cet intermédiaire. Et puis nous aurons quelques opérations très emblématiques qui ne sont pas vraiment des croisements. La venue de Juliette Binoche et d'Akram Khan pour la chorégraphie qu'ils ont créée il y a quelques semaines. Une très belle exposition de photographie d'Isabelle Huppert par les plus grands photographes actuels et qu'on va enrichir avec un ou deux photographes chinois. Donc en fait une assez grande diversité d'opérations dans tous les genres artistiques et à la fois dans des choses on va dire plus classiques ou patrimoniales et des choses beaucoup plus contemporaines. Cette année on va par exemple monter tout un événement autour des cultures urbaines. On souhaite que ce soit un événement très divers avec du rap, du hip-hop, du graph, du VJing, DJ, etc. pour essayer de donner de la France aussi, c'est l'image d'un pays qui est dynamique, qui est créatif, qui bouge, dans lequel il se passe des choses et qui mérite d'être mieux connu, en tout cas dans le domaine artistique qui est le nôtre.
Et l'image d'un pays dynamique. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes le directeur de ce festival ou c'est toute l'équipe finalement de la coopération culturelle ?
Écoutez, un festival comme Croisement n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Si ça fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il y a une équipe importante qui travaille dessus, aussi bien à Pékin que dans les différents consulats que la France peut avoir à Shanghai, à Canton, à Wuhan, à Shenyang et à Chengdu. Et aussi parce que nous avons un réseau d'alliances françaises qui s'étend chaque année un petit peu plus en Chine, qui sont aussi des partenaires très importants. Ça, c'est pour parler de la partie française. Et bien évidemment, ça ne fonctionne que parce que nous avons des partenaires chinois. Ce festival est fait avec des partenaires chinois en très étroite collaboration. Et tous les grands musées ou les grandes salles de spectacle, salles de concert, nous travaillons ensemble pour essayer de proposer au public chinois une programmation aussi riche que possible. Donc moi, je suis un peu au milieu de tout ça, le coordinateur de l'événement, mais tout seul, on ne fait rien. Donc c'est vraiment un travail d'équipe.
Est-ce que ce festival est complètement une spécificité chinoise ? Est-ce que la France organise ce type de festival ailleurs dans le monde ?
Alors la France en Asie, puisque je ne parlerai que de ce que je connais bien, a lancé il y a maintenant une quinzaine d'années un festival à Hong Kong qui s'appelait le French May, dont l'objectif était effectivement au mois de mai, mais maintenant ça déborde un peu en avril et en juin, dont l'objectif était de faire connaître les arts et la culture française à Hong Kong. La formule ayant très bien marché, c'est une formule qui a pu être reprise dans d'autres pays, aux Philippines, à Bangkok, en Indonésie. La Corée a lancé cette année un festival qui s'appelle France Express. Donc Croisement fait partie de ce mouvement, mais avec cette spécificité dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment d'essayer d'avoir une part très significative d'événements qui sont le fruit de collaborations entre des structures ou des artistes français et des structures et des artistes chinois.
Sébastien Cavalier, merci.
Thank you.